Donc, je laisse la parole à Dorcy Rugambach. Il n'a pas besoin de présentation comme on vient de l'entendre. Donc, il va en tout cas nous présenter sa pièce Bloody Niggers, un théâtre contre l'oubli.
Oui. En fait, le temps qu'on essaie d'installer la captation d'une partie de la pièce, justement, dont je veux parler de Bloody Niggers. Hein. Je commencerai déjà pour expliquer un petit peu la pièce par son titre, en fait, qui est un titre un peu provocateur, on va dire, qui peut signifier en français « sale nègre ». Mais ce titre est un clin d'œil à un journaliste du début du 19e siècle qui était un Anglais, qui s'appelait Cunningham Graham, et un contemporain de Joseph Conrad. À une époque, à la fin du 19e siècle, début 20e, où effectivement les Anglais finissaient d'exterminer un peuple amérindien, les Tasmaniens, où c'était le début aussi du génocide des Arméniens, mais en même temps aussi tout proche le génocide des Herero. Et Cunningham Graham avait écrit un article très ironique en disant qui s'appelait justement le titre dont le titre était Bloody Niggers, et qui ouais, on va peut-être juste stopper. Okay. Et dont le titre était Bloody Niggers, en fait, pour dire, dans un propos assez ironique, en disant depuis les origines, Dieu a attendu la civilisation anglaise pour diriger le monde, et c'est au nom de nos propres principes que nous nous autorisons de massacrer les Indiens, de massacrer les nègres d'Afrique. Mais tout ça, pourquoi ? Parce que nous avons plus de canons qu'eux, et ça nous donne le droit, effectivement, de les avilir. Il dit, nos évêques et nos monarques poussent des cris d'orfraie parce que les Ottomans exterminent les Arméniens, mais ils ne disent absolument rien des peuples que nous jetons dans le sang et que nous exterminons. Et au moment où il écrivait, effectivement, venait de disparaître totalement, entièrement, peut-être le seul peuple que l'on connaît qui a totalement disparu, que sont les Tasmaniens, en fait, dont la dernière personne, la dernière survivante, qui était une femme qui s'appelait Truganini, va être exposée d'ailleurs dans un musée jusqu'en 1946. Et à l'origine de l'écriture de cette pièce, en fait, en 2007, c'est juste un peu après, pour reprendre la chronologie, au moment où la question de la violence dans les sociétés et surtout en politique, ici, que ce soit en Afrique, mais surtout ici en Occident, se posait beaucoup, surtout après l'attentat contre les deux tours à New York, où effectivement l'islam comme système et comme système politique, justement, semblait légitimer un discours qu'on n'avait plus entendu depuis un certain temps. Et comme si c'était, voilà, ce système-là qui portait en lui-même, justement, la violence et le fondamentalisme. Moi, étant Rwandais aussi, ce qui m'intéressait, c'est... Je viens d'un pays qui a connu une violence extrême aussi, le dernier génocide du XXe siècle. C'était aussi un petit peu pour m'inscrire en faux contre deux discours que l'on entend justement concernant le génocide au Rwanda, à savoir que la colonisation n'y est pour rien, que serait seulement une haine ancestrale entre... deux tribus, deux ethnies ou deux races, selon comment on les appelle, qui en seraient venues à s'exterminer ou à s'entretuer. Souvent, d'ailleurs, on parle de guerre tribale. et comme une histoire vraiment afro-africaine, rwando-rwandaise, dont les puissances coloniales et impérialistes n'auraient rien à voir. Ça, c'est une des versions, l'autre étant que tout ça ne serait finalement que la faute de la colonisation. Et mon propos était de dire que non, les deux sont intimement liés. Et ça reste que ce sont des Rwandais qui ont exterminé d'autres Rwandais. C'est un problème dont nous devons porter la responsabilité. Mais la responsabilité de la colonisation, elle aussi, est présente et doit être, en tout cas, éclairée. Et qu'il fallait la rappeler de toute façon, sans se soucier du propos que l'on entend systématiquement quand on dit ça, en disant « Ah, vous jouez les victimes ». Et ça, ce discours-là, j'étais très fatigué justement de l'entendre. Et surtout au moment où la question justement de la violence se posait, et il me semblait vraiment nécessaire, en tout cas, de rappeler que non seulement pendant des siècles, l'Occident chrétien, puisque les termes étaient posés en termes, en tout cas théologiques, en termes de religion, a légitimé et mis en application des politiques non seulement violentes, mais d'asservissement et d'extermination des peuples pendant des années. Mais de régler en tout cas cette partie de l'amnésie pour en venir à régler aussi la question qui nous concerne, nous qui avons été soumis effectivement à la loi et aux joug de la colonisation. Et la pièce commence comme ça, avec vraiment comme point de départ l'attentat contre les Twin Towers. Je dois dire un autre déclic, ça a été vraiment au tout début, un livre qui a été juste écrit après le 11 septembre, un livre d'une auteure italienne qui est décédée maintenant, qui s'appelait Oriana Fallaci, qui s'appelait La rage et l'orgueil, qui pour moi était un des livres en tout cas, qui au tout premier allait libérer une parole comme on n'en avait plus jamais entendu dans l'espace public. Il y a toujours des livres assez racistes d'une certaine, mais encensés celui-ci quand même par pas mal d'universitaires et d'autorités établies. Voilà, pour revenir un petit peu sur la forme, justement, ça c'est l'introduction de la pièce, elle est un peu comme ça. Elle est en fait écrite, ce n'est pas une pièce avec des dialogues, elle est plutôt plus écrite comme une saga, avec une présence sur trois quarts de la pièce de la musique, un peu pour reprendre un petit peu comme une épopée dans les traditions des poètes lyriques, comme les griots qui transmettent justement une mémoire qui, celle-là, est justement une histoire qui n'est pas contée ou sans doute oubliée exprès. Et les trois acteurs, effectivement, interviennent, sont des intervenants. Ils ne portent pas de nom de personnage et s'expriment au nom des peuples qui ont effectivement eu à subir, en fait, le joug colonial. Et il y a 17 chapitres. Celui que j'ai lu tout à l'heure, justement, qui concernait la partie sur l'Afrique et les Africains entre eux, est le 16e. Et tout au long de la pièce, effectivement, il s'agit d'évaluer, justement, dans une traversée un petit peu comme ça, comme une épopée, toutes les légitimations qui ont été trouvées, justement, pour la violence politique et puis surtout la violence extrême. Qui est à la fois, par exemple, vraiment les crimes énormes de masse, que ce soit par une légitimation spirituelle, Dieu le demande, ou des politiques effectivement matérialistes, celles-là, justement, pour des raisons, par exemple, comme l'esclavage qui est abordé dans un chapitre qui s'appelle « Bois d'ébène », pour des raisons clairement économiques, justement, on a dégagé les Amérindiens de tous deux continents et puis amené une main-d'œuvre, justement, un crime justement qui a duré sur 4 siècles aussi. Et il y a une partie aussi qui s'appelle Florilège à l'intérieur, qui reprend les théories et qui ont été à la base de la catégorisation de certains peuples et puis de la légitimation effectivement de leur disparition, comme quelque chose qui n'a jamais été accidentel, mais réellement voulu et revendiqué. Donc de rappeler toute cette histoire qui nous amène jusque effectivement à la fin de cette longue route pavée de cadavres, vraiment jusqu'au Rwanda, un petit peu presque comme une remontée généalogique effectivement de la politique d'extermination et du génocide comme moyen politique de gestion des sociétés humaines. Et dans la forme, donc, effectivement, il y a on a choisi une musique plus urbaine qui reprend effectivement l'un des acteurs qui est là, est un musicien d'un groupe de rap qui s'appelle Starflame, un des groupes de rap belges, pour reprendre un petit peu, non plus une musique, parce que le texte est écrit dans une langue plus littéraire, on va dire, très respectueuse de la langue française classique, mais là, par la musique, de prendre plutôt une musique qui est totalement en rupture par rapport à l'axiome dominant de cette époque, justement comme un clin d'œil aux Last Poets, qui ont commencé effectivement à amener ce verbe brisé, effectivement, de reprendre la langue à rebours, effectivement. Et musique trop forte, entrecoupée de canons, de façon à ce que ce ne soit pas du tout confortable, en fait, d'écouter cette parole-là. Qu'il y ait quelque chose, en tout cas, dans sa formulation et dans la manière dont la mise en scène elle est faite, dans sa radicalité, parce que les acteurs ne bougent pas jusqu'à la partie de Bissau Nabissau, effectivement, à ce moment, la musique s'arrête et un des acteurs, justement, se met sur le devant de la scène et commence réellement à jouer dans le sens classique où on l'entend. Mais de choisir cette radicalité, de façon frontale en tout cas, de quasiment aborder le spectateur de façon à non pas à le coincer, mais de façon à ce que ça puisse être pas confortable d'entendre cette parole-là comme on pourrait la dire tout simplement dans un salon entre amis ou dans un cercle intellectuel, parce que à la fois les sujets abordés sont tous documentés de façon à ce que les chiffres sont indiscutables et les propos, les citations, mais la manière dont c'est dit, ce n'est pas comme un intellectuel ou un académique, c'est plus avec une subjectivité qui s'autorise à ce moment-là de choquer, ou pas pour choquer, mais en tout cas de ne pas prendre aucune précaution pour éviter de ne pas choquer. C'est autant dans cette partie qui concerne les pouvoirs coloniaux que dans la partie qui concerne l'Afrique, par exemple, où nous avons... la pièce a été faite un petit peu pour provoquer le débat, surtout. Pas pour provoquer ou de choquer, mais surtout pour provoquer le débat. Ou par exemple en Afrique, ou même juste ici, où un public africain, par exemple, pouvait adhérer ou ne pas adhérer à certaines choses, parce qu'on nous a fait le reproche de dire, ah bien, ça va trop loin. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'il n'y aura jamais les États-Unis d'Afrique, comme si c'était un message pessimiste? Mais c'est une manière d'aller peut-être... Oui, provoquer ce débat-là pour qu'il puisse exister et que, sans doute, on puisse faire bouger les lignes. Merci.
Alors, je remercie les intervenants pour ces superbes présentations et je voudrais introduire Kanye Alem, Grand Prix de la littérature d'Afrique noire, maître assistante en théâtre littérature comparée à l'Université de Lomé, avec le théâtre populaire au Togo. Christine, tu veux ajouter quelque chose?
Non. Merci beaucoup. J'ai 30 minutes, c'est ça, ou moins, ou plus, ouais, d'accord. Je vais essayer d'aller vite. Ce que je voudrais mettre dans l'intitulé théâtre populaire au Togo, c'est d'abord un genre populaire qui a été beaucoup étudié dans les travaux sur les formes de théâtre populaire en Afrique. Je pense ici notamment aux travaux d'Alain Ricard, que je pensais voir, mais qui apparemment est passé hier, Catherine Barber, Collins et compagnie. Il y a eu énormément de travaux sur ce genre qui s'appelle le concept party, qui est un genre né au Ghana dans les années 60, vers la fin de la colonisation, et qui a essaimé un peu sur la côte, au Togo, beaucoup. Au Nigeria, il s'est vraiment encore transformé dans un genre qui est devenu ce que les sociologues du théâtre nigérien appellent l'opéra Yoruba. Et au Bénin, ça n'a pas vraiment duré. Bon, bref, les vraies survivances de ce genre, encore aujourd'hui, on les trouve au Ghana, où le genre est même entré au théâtre national. Tous les week-ends, on peut assister à des représentations de concert party. Ça se fait dans les langues nationales. Et au Togo, où le genre a connu une crise. Alors, ce que je voudrais faire, c'est parler rapidement de cette crise, de ce genre, mais en m'attardant sur, pas vraiment sur l'histoire du genre, mais sur ceux qui ont fait la gloire du concept party. J'ai choisi deux comédiens emblématiques du genre. L'un qui s'appelle Kokou Vito, qui est considéré par tous les analystes du genre au Togo comme celui qui l'a vraiment popularisé. Et puis le deuxième acteur, le deuxième comédien, qui s'appelle Azé Kokovivina, qui était, je crois, le mois dernier au musée du Quai Branly, où il a même fait des représentations. Enfin, c'est pas des performances, je vais dire, parce que il y était à double titre comme comédien et comme prêtre de vaudou. Alors, comme dirait un de mes amis sociologues du théâtre, où est le jeu? Voilà. Une fois qu'on est sorti de la religion, on se pose la question, où est le théâtre? Où est le jeu? Donc, c'était pas vraiment à titre de comédien qu'il était au musée du Quai Branly. Donc, ces deux personnages, ces deux comédiens emblématiques du concept party ont vraiment marqué l'histoire du genre au Togo. Alors, Kokou Vito était un mécanicien. Comme on dit dans le langage populaire, un mécanicien de roues. Donc, il réparait les vélos, les motos et pas de voiture. Et donc, cet homme-là, c'est quelqu'un qui est arrivé à la ville dans les années 70, parce qu'il est né dans un petit village du Togo qui s'appelle Thiévié, qui se trouve à peu près à 50 km de la capitale. Il est arrivé au même moment que le genre a commencé à devenir populaire. Je précise ceci. Au début, le concept party se pratiquait naturellement, j'allais dire, dans les bars, les cours de bars, et il y avait très peu de représentations qui avaient lieu dans les centres culturels à la capitale. Et Kokou Vito, par exemple, a été le premier à jouer le concert party en langue nationale au centre culturel français de Lomé. C'est assez anecdotique, mais c'est assez parlant quand même. De dire... oui, bon, j'avais refusé de définir le genre, mais bon, Mais vous pouvez vous en contenter, hein, vous n'avez pas besoin de la définition. Bon, enfin, si vous voulez, je vais vous dire rapidement, c'est du théâtre, mais joué pas en français, joué en langue nationale, et les caractéristiques essentielles, c'est un théâtre qui tire beaucoup vers le clownesque, la clownerie. Et les thèmes, c'est la vie sociale, les histoires d'infidélité, les histoires de trahison. Enfin, bref, du bon théâtre populaire pour détendre les ruraux arrivés à la ville et qui n'ont pas les moyens d'accéder au théâtre du Centre culturel français, le théâtre national n'existant pas, je ne vais pas en parler. Bon, voilà. Donc, je fais cette distinction rapidement pour éviter d'entrer. Sinon, vous me donnez 45 minutes carrément et je refais le topo. Bon, donc, je m'en tiens là. Je m'en tiens là. Je vais vous raconter une histoire. Donc, suivez l'histoire, ça pourrait aller tout aussi. Donc, je parlais de ce comédien, Coco Vito, arrivé à la ville au même moment que les ruraux arrivent à la capitale. Nous sommes dans les années 70. Le Togo connaît un essor économique assez important à cause de l'exploitation du phosphate. L'argent coule à flot, donc les ruraux arrivent pour chercher du travail. Mais le drame, c'est qu'ils vivent en dehors de la capitale. Ils ont fini de travailler le soir, ils rentrent dans les bidonvilles qui commencent à naître également, et ils n'ont pas de loisirs. Et c'est à ce moment-là que ce personnage de Coco Vito entre en jeu. Il entre en jeu parce que dans les bars des quartiers populaires, il a commencé à jouer. Lui était passé auparavant par le Ghana, où le genre est né, où il a appris les rudiments du métier. Donc, il commence une carrière solo, où il amuse ses compagnons d'infortune, ses compagnons de galère, dans le bon sens du terme, parce que la ville, c'est le lieu de la galère. Il les amuse et il commence à être connu. Alors, où est le théâtre? Là, je fais de la sociologie. Où est le théâtre? Je vais insister là-dessus. Coco Vito avait une manière de jouer. Je vais l'opposer au jeu de Azé Kokovivina tout à l'heure, vous allez comprendre. Chaque fois que les analystes du théâtre populaire au Togo parlent de Coco Vito, ils font toujours référence à sa capacité à faire des jeux de mots. Si j'avais eu des images, vous allez être surpris. L'homme bouge très peu. C'est curieux, on va dire. Mais la force de son jeu résidait dans la parole, la manière d'utiliser la langue. D'abord, il utilisait un dialecte qu'on appelle l'évé, mais avec une forme très particulière que les analystes ont qualifié de l'évé du village. Autrement dit, sa manière de parler était une manière assez discordante. Hein, si je vais vous donner un exemple clair, c'est comme si un Marseillais du fin fond de Marseille venait nous entretenir de Brecht. Quoi. On va tous rigoler, plus même que les pièces de Brecht. Sa manière de parler était très comique déjà, parce que le choix du dialecte, du ton du village d'où il venait, le choix de ce dialecte de ce son village faisait qu'il était déphasé par rapport aux autres. Et donc, la question qui se posait, c'est Coco Vito avait-il un jeu particulier? Avait-il une manière de faire le concept party qui expliquerait son succès de l'époque? La question est oui. Parce que j'ai été très intéressé tout à l'heure par la manière de ces Bloody Niggers. J'entendais le slam déjà avant même qu'on passe l'introduction. Et je me dis, oui, on est au théâtre, quoi. On est au théâtre parce que la manière de dire, la manière de parler est parfois même plus importante que ce qu'on raconte. Donc, Coco Vito avait raison. Et son choix de la langue, sa manière de manipuler les mots, faisait de lui un comédien important. Alors, cet homme a connu un destin assez important parce que très vite, il est devenu populaire et les salles de la capitale ont commencé par lui faire la cour. Mais c'est pas ça qui est intéressant. C'est surtout l'impact de son propos et de son jeu sur le spectateur qui est intéressant à analyser. Dans toute l'histoire du concept party, il est le seul comédien dont on raconte qu'il a été en prison sous la dictature du général Eyadema. Le général Eyadema, vous voulez que je vous explique aussi? Non, ça vous savez. Bon, il est mort, paix à son âme, bon, donc on peut l'oublier. Le général Eyadema, les militaires togolais auraient emprisonné Kokou Vitor parce que sa parole dérangeait. C'est très intéressant cette histoire. Il se trouve que Kokou Vitor n'a jamais fait la prison. Et pourtant, encore aujourd'hui, la rumeur persiste et signe. Kokou Vitor aurait été à plusieurs reprises emprisonné par les militaires togolais. Comment cela s'explique? Cela s'explique justement par le fait que sa parole avait un impact très fort sur les gens. Il y a un sketch très populaire de ce comédien dans lequel il faisait simplement allusion à quelque chose qu'on avait à l'époque au Togo dans les années 70, puisqu'on avait beaucoup de sous, on avait l'habitude d'être très généreux vis-à-vis des pays de la sous-région. On leur envoyait du maïs, voilà. On produisait beaucoup de maïs. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on produisait beaucoup. Et du coup, on pouvait envoyer du maïs au Burkina, au Bénin, quand il y avait pénurie. Alors on avait créé une institution qui s'appelait Togo Grain. Il avait fait un sketch dans lequel il parlait de cette institution, Togo Grain. Personne ne sait comment le truc est arrivé, en même temps on sait. Et dans son sketch, il a mal prononcé, exprès bien sûr, puisqu'il fait des jeux de mots. Il a, au lieu de dire Togo Grain, il a dit simplement Togo Gli. Alors, je vous explique, ça veut dire littéralement, si je prends la phrase V littéralement, ça veut dire le Togo est tombé, ou le Togo s'est disloqué, ou le Togo... Enfin, en tout cas, gli, ça veut dire tomber, se disloquer, se casser, etc. Donc, quelque chose est arrivé au Togo dans ce jeu de mots. Nous sommes en pleine période de prospérité, et le discours est à la prospérité. Le public a vite fait de récupérer le jeu de mots, de l'amplifier à tel point que ce qui a suivi, c'est que il aurait été arrêté. Alors, au final, ce qu'on a découvert, c'est que il n'était pas arrêté, il était simplement en visite, il était parti en voyage. Et donc, son absence de quelques jours a correspondu à son emprisonnement. Il y a d'autres exemples. Je m'en tiendrai à cet exemple-là. Il y a d'autres exemples de ces jeux de mots et des arrestations qui auraient suivi. L'homme avait un propos décalé. L'homme avait le jeu de mots redoutable. Et le fait que la société togolaise était en pleine période de dictature et que l'aspiration à la liberté, à la démocratie, même si elle ne se manifestait pas ouvertement, était quelque chose qui était partagé par tous les citoyens, faisait de lui le porte-parole, non proclamé, du désir d'atteindre à un peu plus de liberté. Et on n'en finit pas oublier les limites aussi de la pratique de son genre, parce que quand on parle de Kokou Vitor et du concept party, on oublie quelque chose, c'est que les succès connus au Togo n'ont jamais correspondu à un succès en dehors du Togo. Il y a eu des tentatives d'internationaliser le genre, mais ça a toujours échoué. Il y a un exemple très frappant d'un promoteur de théâtre qui l'avait vu jouer à Lomé et qui avait été bluffé par la capacité de rire qu'il y avait dans la salle et qu'il avait programmé un festival au Gabon. Ça a été un fiasco total. Parce que je ne sais pas, je ne vais pas entrer dans cette polémique stérile du genre le rire ne serait pas universel ou le rire serait localisé, mais il y avait une question fondamentale, il y avait la question du jeu. Je disais, l'homme parlait beaucoup et bougeait très peu. Or, si le concept party tire vers la clownerie et que lui, son jeu est essentiellement basé sur le travail de la langue, il va de soi que en allant vers un autre public qui n'est pas habitué à ces codes-là, ça peut ne pas marcher. Je ne fais même pas ici allusion au fait qu'il utilisait une langue qui n'était pas comprise au Gabon. J'ai vu les Cambodgiens jouer au Festival international de Limoges. Ça m'a fait chier, mais bon, en même temps, c'était une expérience. Oui, bon, enfin, excusez-moi, mais Limoges ne nous a pas toujours fait rire. Non, le truc n'est pas la langue, sinon on se perdrait dans d'autres types de considérations. Nous sommes au théâtre. La vraie question pour moi, c'est le jeu théâtral, l'esthétique qui est imposée à un public d'abord. Donc cet échec vient aussi du fait que son jeu était assez codé et correspondait au public avec lequel il avait démarré sa carrière. Alors l'inverse, j'ai encore combien de minutes. L'inverse a été Azé Kokovivina qui lui bouge trop, j'allais dire, parce que Azé Kokovivina a été l'élève de Koku Vitor, mais très vite, comme toujours dans les relations entre élèves et maîtres, les questions de jalousie ont vite pointé du nez, parce que Azé Kokovivina aussi voulait remplacer le maître, et Azé Kokovivina avait raison, puisque lui avait eu la chance de tenter l'expérience du concert party en français. Et cela, grâce aux travaux d'Alain Ricard, qui avait beaucoup travaillé sur le concert party au Togo, qui l'avait fait programmer à un festival à Nantes, où il a tenté de jouer en français, et ça n'a pas marché non plus. Donc, du coup, ce que je disais tout à l'heure, a de l'importance à mes propres yeux. Et si c'était simplement une question de langue, il aurait suffi de traduire les spectacles en français pour avoir du succès. Donc on en revient à la question de l'esthétique du genre et du travail que le créateur lui-même doit accomplir pour pouvoir amener son travail loin. Azé a repris le flambeau après la mort de Koku Vitor. Il a même été plus loin, puisque lui, il a créé une compagnie où il ne jouait plus seul. Koku Vitor jouait beaucoup seul. Azé ne jouait pas seul. Il a même tenté d'intégrer d'autres formes, comme l'utilisation de costumes très carnavalesques dans les spectacles. C'est un peu issu des films hindous qui aussi ont beaucoup influencer l'imaginaire du spectateur togolais. Donc il fallait lui donner un peu de choses auxquelles il est déjà habitué. Et donc dans les spectacles d'Azé, on peut voir des gens habillés comme dans les films hindous, quoi. Mais ça marche, parce que ça réveille quelque chose comme un code dans le regard du spectateur. Mais le fait que lui aussi ait voulu axer le travail sur la langue française, pose la question de savoir qui, à un moment donné, leur a fait croire à tous que la question était la question de la langue. Et je vais sortir de là pour aller vers autre chose, parce que si aujourd'hui ce genre connaît une crise, c'est parce que sa mémoire esthétique même est affaiblie. Vous entendez des dramaturges togolais vous dire, des jeunes dramaturges togolais vous dire, de toute façon, le concept party, c'est has-been. Le concept party n'a apporté rien en termes d'esthétique au théâtre. Donc, nous, on tourne le dos à tout ça. Ça ne nous intéresse pas. Et moi, je réponds en analysant, en prenant les comédiens, en prenant le spectacle, les spectacles eux-mêmes, je leur réponds, oui, mais peut-être que personne ne s'est arrêté à un moment donné devant cette mémoire affaiblie pour questionner la question du jeu dans le concept party, pour questionner le peu de le peu de choses dont, que l'on peut prendre et analyser et tenter d'en faire une synthèse et essayer d'aller plus loin. Il y a eu un dramaturge togolais qui s'appelle Frédéric Gapara, qui a beaucoup étudié le concept party et qui a tenté il voulait le ressusciter. Je ne sais pas si c'est... Non, parce que le genre n'étant pas totalement mort, on ne peut pas le ressusciter. Il faut plutôt, comme on s'inspirerait de la Commedia dell'arte, essayer plutôt de se servir des éléments esthétiques du genre pour faire quelque chose de nouveau. Ce qu'il a fait, il l'a nommé d'un terme très pompeux, le théâtre libertin. Je ne vais pas entrer dans la définition que lui-même en donne, mais lors d'une conférence récemment, en mars 2012, il est revenu sur la question et il a expliqué ce qui l'avait poussé à s'intéresser au concept party, parce qu'il faisait du théâtre en français, du théâtre très littéraire, très scolaire, très didactique, tout ce que vous voulez. Et tout à coup, il s'est intéressé au genre pour deux raisons, disait-il. Le côté clownesque du genre et le côté impact politique sur le spectre, impact politique. Parce que l'exemple de Coquevitor, qu'il cite beaucoup, l'avait séduit. Comment, en temps de dictature, cet homme arrivait à mobiliser l'imaginaire des spectateurs. Aujourd'hui, nous sommes en temps de démocratie. Les salles sont vides. Le théâtre n'intéresse plus personne parce que les politiciens sont dans la rue tous les samedis. Comment voulez-vous que dans une société où les politiciens sont dans la rue, les gens aillent au théâtre? C'est pas possible. Quand il n'y avait pas de politiciens dans la rue, sous la dictature, les gens allaient au théâtre. Donc la crise du théâtre est due aux politiciens qui sont dans la rue les samedis. C'était une petite blague que je faisais. Mais c'est vrai ce que je dis. C'est-à-dire que les questions d'impact politique dans les sociétés africaines en voie de démocratisation, on rencontre souvent les mêmes problèmes quand on explique la désaffection générale des salles, c'est que la parole politique des dramaturges parfois s'affaiblit sous une trop forte présence des politiciens, des professionnels de la politique, et c'est un peu le cas du Togo en ce moment. Et donc ce côté poids du discours politique qui a intéressé ce jeune dramaturge Frédéric Gapara. Lui aussi très militant, son combat est personnel parce que lui, quand on l'entend, tous les malheurs du Togo viendraient du président actuel du Togo. Bon, c'est une manière très militante et très cadrée. On lui laisse la responsabilité, mais moi je l'aime bien parce que au moins son propos est circonscrit. Donc il fait des spectacles qui sont pour moi des sortes de revues de presse. Jean Bedos, quoi. Oh, il prend la presse togolaise dans le mois ou dans l'année et il utilise les personnages type du concept party, par exemple le boy, le cuisinier, la femme infidèle, parce qu'il se traversait parfois en femme infidèle pour jouer la maîtresse de la République. Bon, il prend les éléments les plus connus de cette forme populaire et il sert son discours, qui est un discours très militant et très politique. J'avoue que ça a été très intéressant comme expérience. Bon, il n'a pas vraiment continué, mais je crois qu'il aurait fallu qu'on l'arrêtât, qu'on l'emprisonne un mois, parce que je crois que puisqu'on ne l'a pas arrêté, il a été déçu et il n'a pas continué l'expérience. Ça, c'est une blague qu'un spectateur lui a fait à la conférence. Les gens lui ont demandé pourquoi il ne continuait plus le théâtre libertin. Il a dit qu'il n'avait pas le temps et quelqu'un lui a dit « Mais oui, mais peut-être que si on vous avait arrêté comme Coquevitor, vous auriez continué. » Donc, le politique ne s'intéresse pas à ce qu'il fait. Parce que le poids de sa parole politique est faible vis-à-vis de ce que les journaux en société dite démocratique togolaise, peuvent servir aux lecteurs, aux spectateurs. Parce que les journaux sont très violents. Ils sont même orduriers à la limite. Il y a une sorte de logorée dans la presse que le créateur lui-même n'arrive pas à atteindre parce que ça le dépasse. Il se dit, non, moi je ne peux pas aller jusqu'à ce niveau parce qu'ils le font tellement bien que ça n'aurait plus d'incidence. Donc, l'expérience a tourné court, mais il reste une réflexion intéressante à mener. Qu'est-ce que l'on peut tirer comme conclusion par rapport à la crise générale de ce genre, le concept party, et par rapport au fait que sa mémoire esthétique est mise en doute par certains créateurs. Peut-être parce que, en dehors de Kokuvito et d'Azé Kokuvina dont je parlais, il n'y a pas eu d'autres créateurs qui ont donné leur lettre de crédit aux gens, ou bien que la question que les dramaturges et hommes politiques, enfin j'ai dit politique dans le sens de politique culturelle, des gens qui se sont chargés de mettre en forme la culture au Ghana, ont réussi, la question qu'ils ont réussi à résoudre, c'est est-ce que le théâtre du concert party peut sortir du cadre du bar, de la rue, pour entrer dans une salle comme un véritable genre, avec des codes qui peuvent permettre aux créateurs d'aller loin. Je cite souvent cette expérience du Ghana parce que j'y ai assisté presque en live. En 1995, j'étais jeune stagiaire au Théâtre National du Ghana qui naissait, et j'ai vu l'arrivée du concert party qui se mourait parce qu'il y a eu un dramaturge ghanéen qui avait été nommé à la tête du Théâtre National du Ghana et qui avait décidé d'ouvrir le Théâtre National aux petites troupes de concert party et les a fait sortir des bars et autres. Et chaque samedi, il y avait une dizaine de troupes qui passaient et qui faisaient leur sketch et qui faisaient leur spectacle. Et petit à petit, les gens ont commencé par quitter les environs d'Accra pour venir à la capitale chaque week-end assister au spectacle de concert party. La question est difficile dans le contexte togolais parce que il n'y a pas de théâtre national, il n'y a pas de grande salle institutionnelle qui permettrait de tenter la même expérience. Je crois que c'est pour cela que la mémoire s'affaiblit davantage, la mémoire du genre s'affaiblit encore plus. Bon, peut-être même que c'est que dans les colloques bientôt qu'on en parlera. Je ne l'espère pas, mais toujours est-il que en tant que praticien du théâtre, il m'est arrivé parfois de faire mener des réflexions sur une manière ou une autre d'arriver à rendre le plus visible l'esthétique du concept party. Et puisque l'autre problème du genre, c'est que il est très oral et qu'il ne laisse pas de texte, parce que souvent c'est basé sur de l'improvisation, hein, avec un canevas, on peut improviser durant toute la soirée. Il y a pas de texte en tant que tel du concert party. On a réussi à enregistrer quelques spectacles qu'on a transcrits. Et d'ailleurs, cet été, en Californie, j'ai choisi deux tests transcrits de concert party, un par Alain Ricard qui s'appelle Africaine de Paris et un autre que j'ai fait transcrire par mes étudiants récemment qui s'appelle Tegla. J'ai choisi des extraits et je vais me livrer au petit jeu avec les étudiants de théâtre en Californie, au jeu de voir si ils peuvent tirer quelque chose, enfin montrer que l'on peut continuer à faire du théâtre, hein, pas du concept party, à faire du théâtre à partir d'une forme déjà constituée et à partir de textes entre guillemets tirés du concept party. Ce sont des textes de spectacle, ce sont des transcriptions. Donc c'est un peu de la triche, mais en même temps, on ne peut pas faire du théâtre sans artifice. Et si l'expérience peut être poursuivi de cette manière, peut-être que, sans forcément suivre l'exemple des Ghanéens, les créateurs eux-mêmes pourraient tout simplement imposer à leur future création le label de concert party revisité. Voilà un peu la logique dans laquelle les réflexions sur le concept party que je mène peuvent être déclinées. Je crois que c'est bon, hein, j'ai dépassé. Je parle trop, merci.